Amis auditeurs, auditrices, bonjour. Nous voici pour la 4e émission sur Saint-François, notre école. Et comme d'habitude, j'accueille Thierry Beria qui va nous développer un aspect nouveau intitulé « Les pierres vivantes de l'école ». Mais avant de démarrer l'émission, on a un petit correctif à apporter à notre émission précédente.
Oui. Bonjour à tous, merci. En effet, pour que notre émission soit crédible, il faut que nous soyons précis. Et je voudrais corriger deux petites erreurs que j'ai faites la dernière fois. Je parlais des bombardements allemands qui avaient lieu en octobre 1940. Non, c'est en mai 1940, bien sûr. Je disais que notre ami Damien Dagron était né en 1953. Non, il est arrivé à l'école en 1953, mais il est né en 1943. Alors, ces erreurs, je les corrige grâce à l'attention, la surveillance même vigilante et amicale de l'abbé Bréard qui écoute avec vigilance notre émission et je l'en remercie.
Eh bien, nous en venons à notre propos. Pourquoi les pierres vivantes ?
Ah, parce que lors de la dernière émission, nous évoquions une école qui, dans ses locaux, dans ses structures, dans ses pierres et dans ses briques, a été brisée et reconstruite. Mais une école, ce n'est pas seulement de la pierre, ce sont des êtres humains. Et les pierres vivantes, je veux dire, les êtres humains, élèves ou professeurs qui constituent l'école. Et puis je me souviens quand même, nous sommes dans une école chrétienne, n'est-ce pas, de la parole du Christ, je bâtirai mon église avec des pierres faites hommes. Eh bien, notre école aussi est faite avec des hommes. Et puis... ces hommes, je voulais les envisager, je voulais les évoquer aujourd'hui selon deux temps. Dans un premier temps, le tribut humain que nous avons payé durant la guerre, les hommes qui ont souffert et qui sont morts pendant la guerre, mais pas seulement la guerre. Je voudrais évoquer aussi les pierres vivantes, les professeurs, les élèves qui, après la guerre, ont fait rayonner notre école.
Bien. Vous avez choisi d'illustrer votre propos par les figures saillantes du temps de la guerre. Quelles sont-elles ?
D'abord, je voudrais préciser que... il n'y a pas que Saint-François qui a payé ce tribut humain. Je veux songer à d'autres lycées qui, eux aussi, ont payé lourdement cela. Mais... puisque c'est de Saint-François dont nous parlons, je voudrais montrer qu'il y a eu des professeurs qui se sont dévoués, des professeurs qui ont rempli leur double rôle à la fois de professeur et de prêtre et qui ont su ainsi donner l'exemple et être un modèle pour nos élèves. Alors, vous me parlez de figures saillantes. Il faut que je fasse un choix et c'est là que c'est difficile. Je veux demander deux fois pardon. Une première fois pardon parce que tout choix est injuste. Je vais citer des personnes et je vais en taire d'autres qui pourraient tout aussi bien mériter d'être citées. Et puis je veux aussi demander pardon à nos jeunes auditeurs pour qui ce ne seront que des noms et... une galerie de portraits, mais je m'adresse ici à ceux qui ont connu l'époque, l'école à cette époque-là et à qui cela rappellera des souvenirs.
Alors, on en vient au fait.
Oui, il est temps, en effet. Dans un premier temps, je voudrais momentanément ressusciter des personnalités qui ont laissé des traces dans nos souvenirs et dans nos bâtiments. J'ai choisi d'abord d'évoquer la figure de l'abbé Bidault. L'abbé Bidault était professeur d'allemand. Il faisait partie d'un réseau de résistance, le réseau Hector, au sein du lycée. Et plusieurs se souviennent d'un moment pénible, le 12 octobre 1942, peu après midi, la Gestapo arrive dans les locaux de l'école pour l'arrêter. Alors, père Bidault avait été prévenu peu de temps auparavant et il aurait certes pu s'enfuir, mais il savait que ses proches, dans ce cas-là, auraient eu de graves ennuis. Il a choisi de rester, il a été arrêté, déporté d'abord à Fresnes, puis à Netzweiler-Struthof, puis à Dachau. Il n'est pas mort. Il a pu revenir, il a pu reprendre ses activités après la guerre, mais cette arrestation a marqué les esprits de ceux qui étaient présents et j'ai voulu, pour ce grand résistant, retenir son nom en tout premier. Le deuxième nom que j'ai retenu dans cette galerie de portraits est celui de Marcel Mézin. Marcel Mézin n'était pas un professeur de Saint-François. Nous avons eu l'occasion d'en parler. Je rappelle qu'un lycée professionnel d'Alençon porte ce nom. Je rappelle qu'un pavillon à l'intérieur de notre école, le pavillon Mézin, qui est celui où les collégiens ont cours, porte également ce nom. Marcel Mézin était un ancien élève de Saint-François, devenu architecte. C'est lui qui fit les plans de ce que l'on appelait le pavillon 9, construit en 1939, bombardé en 1944. Il est mort en déportation et c'est ce nom-là, qui est un nom très connu des Alençonnais, que je souhaitais citer aussi. J'ai cité deux noms célèbres. En voici un troisième qui est moins célèbre, mais qui m'émeut parce qu'il est moins célèbre. Celui parmi nos anciens élèves qui fut fusillé, arrêté et fusillé par la Gestapo, il s'appelle Maurice Mallet. J'ai parlé à droite et à gauche de Maurice Mallet, essayant de ressusciter cette figure, et à part notre ami Gilbert Thiel qui m'en a un petit peu parlé, j'ai trouvé très peu de personnes qui s'en souviennent. N'empêche, il a été arrêté, fusillé, et je voudrais ici évoquer son souvenir. Et puis, pour ceux qui s'en souviennent, je voudrais évoquer aussi la figure de l'abbé Charles Aubine, professeur de lettres, qui est mort en Allemagne le 10 mars 1944. Il s'illustrait à l'école par son dévouement. Il participait aux colonies de vacances d'Alençon ou de Paris et lui aussi a laissé sa marque dans les esprits. Je crois me souvenir d'ailleurs, Michel Marpeau, qu'il est lié à votre femme.
Absolument, c'est l'oncle de mon épouse, ainsi que le père Bidault. Le père Bidault et le père Aubine étaient demi-frères. Et ils avaient la même mère. Et dans la famille, ce sont deux figures dont il est très, très, très souvent question.
Alors, je ne peux pas, hélas, sous peine d'être trop long, trop ennuyeux, trop répétitif, donner tous les noms. Par piété, par respect, j'en ai dressé la liste. Je ne vais donner là que des chiffres. Nous avons eu 7 anciens élèves morts en déportation, un fusillé, Maurice Mallet, 2 morts en captivité, 35 morts en service ou au cours de bombardement, soit 45 tués pour notre école. Nous avons largement payé notre tribut à cette guerre et je n'ai pas parlé, on ne peut pas parler de tout, de ceux qui sont partis au STO, le service du travail obligatoire. Je me souviens, lorsque je suis arrivé à l'école, que plusieurs prêtres et professeurs, l'abbé Abel Loitron, l'abbé Christian Loitron, l'abbé
Paul Richer,
évoquaient avec discrétion ces souvenirs où ils étaient en Allemagne au STO.
Pour terminer cette évocation, un nom, reste-t-il un nom qui vous vienne à l'esprit ?
Oui, j'ai choisi pour conclure ce premier temps sur les figures de la guerre, quelqu'un qui n'est pas mort, mais il vit toujours. Il habite rue Marcel Mézin. Il y a parfois des coïncidences significatives, n'est-ce pas ? Il est toujours vivant. Il n'a jamais été déporté et il a joué quand même un rôle durant la guerre. Son nom, c'est Raymond Siroux. Raymond Siroux est celui qui a donné des indications à la division Leclerc pour pouvoir pénétrer à l'intérieur d'Alençon. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, monsieur Thiel ?
Il est même conduit.
Vous avez dit au début de l'émission que vous iriez dans deux directions différentes. Nous avons vu la richesse de la période, la richesse des personnalités qui ont créé cette école. Quelle est votre deuxième direction ?
Je reviens au titre de mon émission, Pierres vivantes. Les pierres vivantes, ce sont aussi les élèves que nous avons eus et qui, formés par nous, ont eu un rôle à jouer dans notre monde. Et aussi et surtout, bien sûr, les professeurs qui ont laissé une trace, parfois souvent indélébile, dans l'esprit de leurs élèves. Je suis professeur et je suis persuadé qu'un professeur joue un très grand rôle dans la formation des jeunes esprits. Et qu'un professeur qui joue pleinement ce rôle est une pierre vivante qui fabrique à son tour des pierres vivantes.
Nous allons d'abord voir quels sont les élèves qui ont marqué l'établissement.
Alors là aussi, un choix s'impose. J'évoque juste un nom, celui de Louis Barillet, le rénovateur de l'art des vitraux dont nous avons parlé lors de notre deuxième émission. Mais là, j'ai retenu trois noms et en clin d'œil pour vous, Michel Marpeau, j'ai choisi trois Michel. Trois Michel. D'abord, le premier Michel s'appelle Michel Manol. Moi, l'étranger, moi, le hors-sein, moi, celui qui suis venu d'ailleurs, lorsque j'étais un jeune homme, je lisais un poète qui s'appelle Michel Manol. Quand je suis venu en Alençon, j'ai découvert qu'il était alençonnais, qu'il avait été élève à Saint-François, qu'il est enterré au cimetière Notre-Dame. Hélas, je crains d'être le seul à me souvenir du poète Michel Manol, mais vous ne m'en voudrez pas de le saluer ici. Michel Manol est un poète que moi, Lyonnais, j'ai connu et lu à Lyon et que les Alençonnais ne connaissent pas assez. Un ancien élève de Saint-François. Le deuxième Michel que j'ai retenu est Michel Magne. Michel Magne, après avoir fait ses études chez nous, fut musicien, particulièrement les musiques de films. Et savez-vous que c'est lui qui fit la musique des Tontons Flingueurs ? Et puisqu'il est le temps de passer à la pause musicale, je vous propose d'écouter justement la musique de Michel Magne, notre ancien élève. Nous reprenons notre émission, Saint-François, notre école. Vous êtes sur RCF 61. Nous venons de parler de deux Michel, anciens élèves de Saint-François. Vous aviez dit qu'il y en avait un troisième. Ah oui, pardonnez-moi, je suis en littéraire, c'est mon préféré. Je suis professeur de littérature. Il s'agit de Michel Tournier, le grand écrivain, le prix Goncourt, membre de l'Académie Goncourt, auteur que tous les jeunes collégiens connaissent de Vendredi ou La vie sauvage, que tous les adultes connaissent avec le livre Vendredi ou Les limbes du Pacifique. Eh bien, Michel Tournier fut élève de Saint-François.
Ça, je crois que vous l'apprenez à la plupart des gens.
Eh oui, il fut élève durant un an en 1938-1939. Pourquoi ? Ah, les aléas de la guerre poussaient pas mal de Parisiens, lui il était de Saint-Germain-en-Laye, poussaient pas mal de Parisiens dans notre région. Il fut élève interne en classe de 3e A. Dans un livre qui s'intitule « Le vent par Raclet », il raconte comment il a passé un an dans l'internat. Il n'en garde pas forcément un bon souvenir. Pour lui, Alençon était une ville de garnison. Il a souffert à Saint-François. Il affirme qu'il était mauvais élève. N'empêche, j'ai retrouvé ses bulletins scolaires. Il était premier prix d'allemand et deuxième prix de latin. Mais les locaux de Saint-François ont durablement impressionné son souvenir. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque je suis venu sur Alençon et que j'ai été nommé au lycée Saint-François, Je me suis dit, mais j'ai vu cela, j'ai lu cela. Car cela renvoyait pour moi aux locaux tels qu'ils étaient décrits dans Le Roi des Zones, un des romans de Michel Tournier. Alors, dans Le Roi des Zones, le narrateur explique qu'il était à Saint-Christophe de Beauvais. Ce n'est pas Saint-Christophe, c'est Saint-François de Sales. Ce n'est pas Beauvais, c'est Alençon. Et ce qu'il dit de Saint-Christophe, c'est exactement ce que l'on a pu connaître et vivre. Il évoque, par exemple, la gamme des punitions. C'est peut-être pas ce qu'il faudrait dire en premier, mais la gamme des punitions avec le peloton, longue file d'élèves condamnés pour un quart d'heure, une demi-heure ou plus à tourner en silence sous le préau. Et d'autres souvenirs. Le temps me manque pour tout évoquer. J'en ai souvent parlé autour de moi et je me heurtais à l'incrédulité polie des Alençonnais, jusqu'au moment où Michel Tournier a lui-même envoyé une lettre à l'Association des anciens élèves, une lettre que j'ai là sous les yeux, je la cherche et je vais la trouver, dans laquelle il affirme, je la retrouve, « Si on veut en savoir davantage, qu'on lise dans mon roman « Le Roi des Zones » la vie d'interne du jeune Abel Tiffauges, tout sort d'Alençon. » Fin de citation. J'ai beaucoup aimé Michel Tournier. Il raconte qu'enfant, il a été enchanté par le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf, moi aussi lorsque j'avais 10 ans. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais si c'est le cas, je lui adresse un amical bonjour.
Après les élèves célèbres, qui avez-vous choisi ?
Parmi les professeurs, trois figures qui me semblent particulièrement saillantes et il me semble indispensable au point de départ d'envisager la figure de l'abbé Piauget. L'abbé Piauget fut ancien élève à Saint-François de Sales, ancien professeur à Saint-François de Sales. Il fut sous-supérieur de Saint-François de Sales avant d'être nommé évêque coadjuteur de l'évêque de C. Puis il fut évêque de C. Mais pour envisager cette haute figure de Saint-François, je fais appel à notre ami Gilbertine. Alors Gilbertine, je suis très heureux de vous avoir avec nous. Vous avez fait faux bond la dernière fois parce que vous aviez des problèmes de santé. J'espère que vous allez bien maintenant. Parlez-nous, s'il vous plaît, des souvenirs que vous avez de l'abbé Piauget.
Eh bien, écoutez, ayant été élève de Saint-François de septembre 1936 à juin 1948, j'ai gardé un souvenir ému de celui qu'on appelait le père Piauget. Car le père Piauget, comme on disait, avait un ascendant tout particulier sur les jeunes en raison de son rôle d'enseignant, en raison de son rôle de prêtre et plus tard, nous l'avons su, du rôle qu'il avait pu jouer dans la Résistance. Alors, son rôle de prêtre, je n'évoquerai pas la question, sinon pour vous dire qu'il était extrêmement près des jeunes et que nous allions nous confier très aisément à lui, même quand nous n'allions pas nous confesser, mais c'était quelqu'un à qui on aimait confier les problèmes qui pouvaient se poser à nous. Rôle de professeur. Je l'ai eu comme professeur en français, en latin et en grec. Je dois dire que pour moi, j'en ai retiré le plus grand bénéfice. De même que tous ceux qui ont participé à son enseignement. Et je citerai mon frère, qui a quitté Saint-François en 1943 pour intégrer Henri IV à Paris. Et là, il a eu un autre professeur de français éminent. Et il faisait souvent la comparaison entre les deux. Il disait, j'ai eu deux grands professeurs de français, l'abbé Piauget à Saint-François et Georges Pompidou à Henri IV. Et vraiment, il établissait une comparaison entre l'enseignement qu'il avait pu recevoir de ces deux maîtres. Donc, voyez-vous, nous avons eu avec le père Piauget, car excusez-moi, je l'appelle toujours le père Piauget, des rapports extrêmement étroits et des rapports filiaux.
Rappelons que l'abbé Piauget, le père Piauget, l'évêque Piauget, qui est inhumé à la cathédrale de C, est aussi l'auteur d'une thèse.
Il est sur Saint-Jean-Eudes, n'est-ce pas ? Et j'ai encore mon livret scolaire où il signait André Piauget, docteur ès lettres. Donc, si vous voulez, et pour nous les jeunes, figurez-vous, en 1947, quand nous avons su que vous avez fait partie du comité de la résistance, ça a été très impressionnant, car ce n'est jamais un homme qui donnait un signe de son activité qu'il pouvait avoir au sein de la clandestinité.
Est-ce qu'il y a d'autres abbés qui aient marqué Saint-François ?
La deuxième figure que je voudrais mettre en relief est celle de Eugène Bougie. Ah, c'est tout à fait différent. Eugène Bougie n'est pas l'homme des honneurs, alors même qu'il est comblé de diplômes, n'est-ce pas ? Il est né en 1895 à Briouze. Il fut élève à Saint-François de Sales. Il a été nommé le 1er août 1925 professeur au lycée Saint-François de Sales. Il y a fait toute sa carrière comme professeur de biologie. C'est une figure que j'aime beaucoup parce que c'est la figure du scientifique littéraire ou du littéraire scientifique. Il avait une licence de philosophie, il avait une licence de sciences physiques, il avait fait une thèse de doctorat sur la betterave sucrière qui avait à ce point intéressé les autorités soviétiques que les Russes de Moscou s'était mis en relation avec l'abbé Bougie parce que cela les intéressait. Il avait également un diplôme de pharmacien, ce qui a pu lui permettre de patronner une pharmacie sur Alençon. Et tous ceux qui sont passés avec lui gardent le souvenir d'une figure qui est une figure d'humaniste très très profond. D'une grande figure de professeur, quelqu'un qui ne cherchait pas les honneurs, quelqu'un qui, toute sa vie, a consacré son énergie au travail et à la recherche. C'est pourquoi, lorsque nous avons créé, dans les années, fin des années 80, début des années 90, notre internat de garçons à Saint-François, nous avons décidé de lui donner le nom de Eugène Bougie. Bien des gens, bien des jeunes garçons qui dorment dans cet internat ignorent qui était Eugène Bougie. Ils sont dans le pavillon Bougie. Je voudrais leur dire combien l'abbé Bougie fut une figure importante de notre école.
Est-ce qu'il n'y a pas un petit mot à dire sur l'abbé Gier ?
Ah, l'abbé Gier. Alors, l'abbé Gier était professeur de lettres. Il avait fait une thèse de doctorat lui aussi. L'abbé Gier, comme je le disais tout à l'heure, c'est celui qui a impressionné Michel Tournier. L'abbé Gier n'a pas laissé énormément de souvenirs. Il a laissé un livre que j'ai lu autrefois, qui est fort intéressant. L'abbé Gier était une figure sans doute très intellectuelle, mais parmi nous trois, je crois que c'est vous, monsieur Thiel, qui l'avez connu. Pouvez-vous évoquer un souvenir à cet égard ?
Bien, écoutez, malheureusement, je n'ai pas eu, si vous voulez, de contact direct avec l'abbé Gier. Donc, il m'est très difficile de donner des renseignements précis, mais c'était effectivement un homme qui était très attachant et auquel les gens s'adressaient très aisément.
Une autre figure qui est très célèbre pour les Alençonnais, c'est le père Flamand.
Bien sûr, bien sûr. Il faut, et ce sera la clôture de notre émission d'aujourd'hui, il faut que nous évoquions la haute figure de l'abbé Pierre Flamand, né en 1907 à Lille. Lui, il n'est pas un Normand, c'est un Lillois. Il n'est pas ancien élève. Il est venu comme professeur le 1er janvier 1931. Au lycée Saint-François de Sales, il était professeur d'histoire-géographie, un professeur d'histoire-géographie qui était tout à fait efficace, estimable et qui a bien fait son travail. Mais il est surtout connu parce qu'il a été prisonnier en Oflag, en Allemagne, pendant la guerre. Puis il est revenu, il a été professeur au lycée Saint-François à Notre-Dame. Et parallèlement à ce travail de professeur, utilisant ses souvenirs de prisonniers et de déportés, il a d'ailleurs fait une thèse qui était une thèse sur le flag sur lequel il a été retenu. Le titre de sa thèse, c'est « La vie à le flag 2D2B 1940-1945 ». Oui, je l'ai lu.
Couronné par l'Académie.
Couronné par l'Académie, vous avez raison, monsieur Thiel. Et fort de toutes ces références, bardé de décorations, n'est-ce pas, Légion d'honneur, palmes académiques, l'abbé Flamand était couturé d'honneur, hein, fut archiviste diocésain, curé de Colombier, Il est mort le 11 décembre 1998. Tous ceux qui ont travaillé aux archives de l'Orne gardent un très grand souvenir de lui. Et, monsieur Thiel, je crois savoir que vous avez été son successeur à la Chao.
J'ai d'abord été son élève et je m'en félicite, car j'ai connu le père Flamand à son retour de prisonnier lorsqu'il revenait de Poméranie. C'était un professeur extrêmement précis, extrêmement efficace, qui a su nous donner le goût de l'histoire. Et le goût de l'histoire que j'ai eu, je le lui dois. Vous avez dit, M. Berriat, qu'il avait eu une thèse couronnée par l'Académie. Je dois dire qu'il a également fait un livre sur les prêtres normands sous la Révolution, qui a reçu le Grand Prix de l'Académie de Rouen en 1989. J'ai eu l'honneur, non pas de succéder, car on ne succède pas au père Flamand, mais de remplacer le père Flamand à la tête de la SHAO. Et pour moi, ça a été une charge dont j'essayais de me tirer avec le maximum d'honneur.
Eh bien, nous voilà, après une évocation de quelques-unes des pierres vivantes de Saint-François, on va conclure et peut-être donner une idée de notre prochaine émission.
Oui. Alors, nous déroulons bien évidemment l'histoire de Saint-François de Sales, notre école. Nous arrivons maintenant à une période qui est la période patronnée par l'abbé Bréard, qui est la période à partir des années 1970 où il y a eu une explosion positive cette fois-ci, explosion d'activité, d'initiative. Et donc, je voudrais évoquer cette période des années 1970-1980 qui ont vu la création de très, 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 très nombreuses initiatives et qui représentent un tournant dans l'école. On arrive véritablement dans une nouvelle école.
Merci et à la prochaine fois.